une heure mensuelle de Safer Zone sur la bande FM bruxelloise.
What is my subconscious understanding in relation to whatever I'm experiencing?
La mensuelle Safer Zone de la bande FM.
I need something. Something's gonna free my soul. I need some house music. I need a kick. Give me a kick.
It's just like this. Bonsoir, ici Baxter et Princessine, et bienvenue à tous dans ce cinquième épisode de Talk from Homographia. Ce soir, nous parlerons de sexe et de drogue, de pratiques sous influence et d'états secondaires. Nous sommes en direct de la Shame Gallery au Sablon et avec nous des invités fantastiques. Maurizio Ferrara, psychologue à Infor Drogue et détaché chez Execo et Modus Vivendi. Samy Soucy, chargé de projet sur la prévention liée au chemsex chez Execo. Lazare Lazarus, artiste et XXX vidéaste. Milka Bunga Kongi, performeuse. Xavier Dufault, artiste visuel. Pourquoi ne sommes-nous pas dans les studios de Panique? Parce qu'en ce moment même, à la Shame, on y prépare la première exposition de Shame Project, avec des artistes concernés par le porn, le post-porn, le TDS, les corps et les sexualités. Le vernissage, c'est le 18 juin 2021. Notez-le sur vos agendas et rejoignez-nous, 30 rue de la Paille, 1000 Bruxelles. L'ouverture sera à 14h et le début avec des performances à 18h. Au studio volant, comme d'habitude, la meilleure, c'est Suzy Q. Et à la sélection musicale ce soir, celui qui rythme nos nuits endiablées, DJ Manushko. Est-ce qu'on va peut-être commencer par une première chanson?
Ben oui, ce sera Too High de Boardlord.
Très bien, alors allons-y. Let's go, Suzy.
Too high.
Too high, can't come down.
Vous êtes sur Radio Panique en direct de la galerie Shame et vous écoutez Talk from Homographia. On vient d'entendre Board Lord Too High.
Alors moi, Princessine, j'ai le plaisir de vous présenter quelques-uns et quelques-unes des artistes que j'ai invités pour faire partie donc de cette expo collective qui a lieu ici même et du vernissage performatif qui sera inauguré le 18 juin à partir de 18h dans la galerie. Donc on a Lazarus, artiste et vidéaste de films pour adultes, comme on dit, est en résidence au sein de ce projet. Il y a aussi Milka Bonga Kongi, performeuse, mais aussi DJ bien connu de la scène queer et alternative de Bruxelles. Et Xavier Dufaux, artiste visuel et faussaire créateur d'objets qu'on qualifie volontiers de détournés. comme certaines choses autres. Pour commencer, je voulais faire peut-être, on se disait qu'un tour rapide pour que chacun, chacune puisse se présenter peut-être, et puis après on discutera de votre pratique artistique. Donc, qui voudrait commencer? Est-ce que on fait comme ça ou alors c'est moi qui décide?
Tu veux la faire au Chifomi?
Je ne sais pas. Alors, on a Milka. Ah, Milka, t'es chaude, ça y est. Bon, allez, super.
Je me lance.
Vas-y, c'est à toi.
Je m'appelle Milka Kongi Mbunga. On peut me nommer aussi Zulu Choco. Je suis née à Kinshasa et j'ai grandi à Paris. Et maintenant, pour l'instant, je suis à Bruxelles. Ça fait 17 ans que je suis à Bruxelles. Et quoi dire plus de moi? voilà, comme tu l'as dit, je mixe un peu, je fais des
danser. Ouais. Tu nous as fait danser beaucoup.
Oui.
Par exemple.
J'essaye. Ouais. Et je suis très contente de participer à ce projet qui sera le 18. J'ai hâte.
Super, nous aussi. peut-être la prochaine Lazare, tu veux?
Oui, alors donc je m'appelle Lazarus et moi pour ce projet je vais présenter une série de dessins, de vidéos et de masques qui tournent autour des imaginaires et des paysages de Marseille, notamment des paysages liés à la Méditerranée, où je mêle à la fois donc des univers botaniques et des univers pornographiques, voilà pour le dire synthétiquement.
Yes,
effectivement. Et Xavier, maintenant c'est à toi, Xavier, de te présenter.
Oui, bonjour tout le monde, moi c'est Xavier Dufaux, je suis bruxellois et je termine mon cycle master à la Cambre, là, dans l'atelier d'images imprimées gravures. Et pour cette expo, je compte montrer des images porno, gays, mais dans des cadres plutôt naïfs, enfantins, enfin que j'ai trouvé... et qui sont plus un univers complètement différent de l'imaginaire pornographique et de confronter ces deux esthétiques-là. Mais j'aimerais bien aussi présenter un livre que j'ai écrit et mis en page, et qui est un livre canular, si on peut dire, et c'est une fausse édition Taschen, où je m'auto-canonise et auto-proclame artiste officiel. Et dans le livre, un des chapitres, ça traite justement du porno, l'esthétique porno, comment le porno ça m'a influencé, et puis comment j'ai essayé de le confronter, cette esthétique-là, à la mort.
Wow.
Ça okay. S'appelle Eros et Thanatos.
Ah bah oui, clairement. Ok, super. Pour continuer plutôt, je ne sais pas comment on pourrait... Oui, tu voulais peut-être... toi, tu avais quelque chose à dire, Baxter.
T'aider?
Oui,
m'aider plutôt.
Ouais,
c'est
vrai.
Pas encore mon tour. Non, on avait une question parce que l'exposition tourne autour du sujet et cette émission aussi. Sexe, drogue, est-ce que ça vous parle en tant qu'artiste, et dans quelle mesure est-ce que les œuvres que vous allez présenter parlent de tout ça? Alors, on a fait un petit tour comme ça sommaire, mais voilà, c'était pour avoir vos avis, votre parcours concernant ces questions-là dans vos pratiques artistiques. Comment est-ce que ça se passe? Tu veux commencer, Xavier?
Ouais, ok. Bah, pour revenir à ce livre qui est genre plutôt autobiographique, et ben oui, je parle de la drogue et je parle pas que de ça, hein, mais enfin ouais, il y a un passage sur ça, mais plus ouais, sur l'esthétique porno et comment depuis d'avoir eu accès à Internet assez jeune, ça m'a éveillé assez tôt à la sexualité, à l'homosexualité, et comment ça a beaucoup influencé ma pratique artistique, et que depuis 2015, eh ben, je me suis approprié l'esthétique porno à redessiner ou à détourner, par exemple, détourner de l'histoire de l'art, par exemple, des peintures assez iconiques, et de, par exemple, faire des photomontages et de coller des titres de porno et le porn quality en pourcentage sur ces peintures-là, et essayer de confronter alors histoire de l'art, quelque chose de plutôt sacré, et la pornographie, quelque chose de plus profane, populaire. Et voilà, c'est une des ambiguïtés sur lesquelles j'aime jouer, en fait, ce truc de profane, sacré, les valeurs.
Oui. Ok, super. Et toi, Milka, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Comment est-ce que tu gères tout ça?
Bon, après moi, c'est au niveau de la sexualité, de la drogue, j'étais confrontée à ça vachement beaucoup plus jeune, quoi. Je pense que dès mes 16 ans, j'étais livrée à ça, et au début, voilà, c'était hyper nouveau pour moi et très excitant d'ailleurs, et donc j'ai dû tout tester. Enfin, je parle aux fonctions de mon expérience et aux fonctions de la perf aussi que je lui ai présentée, en fait. Et j'étais beaucoup dans l'excitation. Tout était magnifique et extraordinaire. Et jusqu'au moment aussi, tu prends un peu du recul et tu te poses un peu des questions, tu te remets un peu des idées en place. Et du coup, j'ai essayé un peu de changer mon mode de vie en fonction de ma consommation et de mes rapports sexuels que je pratiquais avant. Et là, j'ai 32 ans, je suis arrivée à un mode de vie un peu, pas classique, mais où la drogue me procure autant d'excitation comme avant, mais différemment. Et ma pratique sexuelle, je me fais l'amour à moi-même en dansant. Donc j'ai combiné ces deux choses-là beaucoup plus personnelles. Avant, je m'exhibais, je le partageais pour tout le monde. Je pense aussi que c'est la jeunesse, t'apprends, hein, c'est des expériences. Là, c'est beaucoup plus personnel et j'essaie de l'exprimer différemment, de faire passer un message, peut-être, j'en sais rien. Donc, au niveau de la perf, moi, je me suis basée un petit peu aux fonctions de l'expérience que j'ai vécue avec le Covid, parce que c'était très très difficile pour moi un peu d'être coupée de mes activités et de mes plaisirs, parce que les seuls moments où je me sentais bien, c'est quand j'étais bien défoncée devant un gros baf, que je pouvais bien me toucher et me faire plaisir à moi-même, quoi. Et du coup, j'ai voulu le mettre en œuvre un peu par rapport au vernissage le 18. Et j'ai envie d'exprimer un peu cette colère que j'ai gardée pendant un an et demi, où j'étais emprisonnée de tous mes besoins. Et c'était un peu ma manière de m'échapper et d'être dans mon monde, quoi. Et pas spécialement dans mon monde, parce que on rencontre plein de gens, dont il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, c'est assez cool de partager ça avec tout le monde. Et du coup, je voulais mettre en forme le 18 pour... en fait, là, j'arrive dans une espèce de libération. Et du coup, je vais le mettre en place pour exprimer un peu ma joie et ma liberté de retrouver mon corps et ma drogue et mon plaisir, quoi. Voilà.
Super. J'ai hâte de voir ça.
Oui, moi aussi.
et toi, Lazare, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus?
Sur la drogue,
le sexe, ta manière d'en parler dans ton travail artistique.
Il n'y a pas vraiment de place pour la drogue dans mon travail artistique, davantage dans ma pratique du travail du sexe. J'ai souvent la affaire à des clients qui me demandent de les injecter. Donc ça, c'est plutôt dans le cadre du chemsex que j'ai une pratique de la drogue et je me fais payer pour ça souvent. Mais dans le cadre de mon travail plastique, de vidéo ou de dessin, j'ai pas encore expérimenté. Il n'y a pas vraiment de place pour la drogue. D'ailleurs, je suis pas sûr que dans mon travail de vidéo, si je présentais des prises de drogue, ce soit vraiment possible. J'avais déjà réfléchi à droguer quelqu'un et de le filmer, mais on s'est dit que ça serait jamais diffusable en fait. Déjà que la pornographie c'est un peu compliqué, notamment la pornographie queer c'est un peu compliqué, BDSM aussi. Donc la place de la drogue dans le cadre d'une vidéo c'est un peu compliqué. Alors moi par contre quand je dessine faut que je sois sobre, donc j'ai pas de voilà, pour moi c'est un monde un petit peu à part.
Puisque tu me poses pas la question, je vais y répondre.
C'est à moi, tout à fait, parce que je voulais demander à Baxter, sex, drug and art, ou alors sex, drogue et art, t'en racontes quoi, toi, Baxter?
Ah, c'est génial. Alors, pour la faire courte, j'ai souvent eu des pratiques sous influence, qu'elles soient sexuelles, musicales et ou artistiques. Dans mon travail plastique, j'en parle. Je parle poétiquement de mes pulsions de mort et de mes visions influencées. Contempler le monde extérieur complètement def ou imaginer une dystopie et son cosmos sous prod, ça a été pendant très longtemps ma cam. Lol. Parce que, en fait, sans prod, tout simplement, je ne voyais rien d'autre que la réalité plate et creuse du système hétéro-capitaliste et ça me déprimait profondément. J'en parle parce que je suis passé par là. J'ai découvert les drogues dans l'univers de la nuit avec un grand N. La nuit pour faire de la musique dans des caves, la nuit pour comploter aussi et la nuit pour baiser. Baiser et BDSM. Il y a aussi de la cam dans cet endroit, dans les boîtes de nuit, dans les backrooms, dans les appartements, des partouzes sous chimie. Et quelle extase. Rien que d'y penser, ça me donne toujours chaud. Mais j'ai aussi vu des parties de moi que j'ai pas du tout envie de recroiser ou des moments de redescente que j'ai pas envie de revivre non plus. J'en ai eu besoin pour survivre, ça c'est sûr. Ma relation à la conso m'a aidé à me libérer, à me sentir mieux dans mon corps, même si c'était éphémère, c'était nécessaire. Ça m'a tendu des pièges aussi, mais les drogues m'ont aussi donné de l'amour et du care. Aujourd'hui, je m'en sers plutôt comme d'un outil encore parfois pour composer des instrus ou faire des grands formats en dessin. Et où imaginer des costumes. Peut-être on peut faire une transition avec DJ Manouchko.
Ouais, oui, alors, je vais mettre le prochain morceau, ce sera Froncado Infodrogue.
Parfait, merci. À toutes.
Thank you. Et on est toujours là, c'est Talk from Homographia sur Radio Panique. On vient d'entendre Front de cadeau, info drogue. On est toujours en direct de la Shame Gallery, de Shame Project. C'est une exposition collective organisée par Chris Miller, la garçonnière prod. Une résidence de 2 semaines à la toute nouvelle galerie Shame au cœur du Sablon à Bruxelles. 9 artistes queer sont invités à partager leurs œuvres, installations, performances in situ, illustrations, photographies, vidéos et arts numériques. Dans leurs travaux, ils explorent les influences du sexe et de la sexualité, des paradis artificiels, de l'inspiration, du fantasme à la dépendance, de la production artistique actuelle et au sein de nos communautés, en passant par des propositions de rêves imaginant de nouveaux érotismes. Le vernissage. Ah, non, mais.
Je suis désolé.
Tu peux t'excuser. Ouais. Le vernissage se fera sous forme d'une soirée exclusive avec lecture de poésie, performance et musique, entre autres Von Roach alias Pig Boy, Milka Bunga Kongi, King Baxter, moi-même et Sheila qui nous rejoindra aussi.
Exactement, merci Baxter. Je peux dire qu'on a un peu le trac, ou alors je parle pour moi en tout cas, mais hâte de vous présenter notre projet honteux. Je vais me tourner maintenant vers nos deux invités suivants pour notre focus sur un sujet plutôt particulier, mais qui commence à faire parler de lui depuis un petit temps déjà, disons de manière un peu plus généraliste. On accueille Maurizio et Samy, avec qui on va aborder le phénomène du chemsex. Et d'abord, comme pour avec nos invités précédents, je vais vous demander de vous présenter peut-être un petit mot rapide sur votre parcours, et on va commencer par toi, Maurizio, si tu veux bien.
Ok.
Hello.
Alors, je suis psychologue, je travaille à Infodrog depuis le début des années 2000. Avant ça, je travaillais à l'hôpital Saint-Pierre, dans le service HIV-SIDA. Et là, depuis peu, je suis détaché à Execo pour des consultations chemsex, mais aussi à Modus Vivendi pour des copermanences et des consultations avec le public festif qui utilise des drogues de toutes sortes. Et là, maintenant, c'est vraiment une collaboration avec, avec Execo. Ouais. Sur ces consultations chemsex qui est le thème de ce soir.
Est-ce que tu peux nous expliquer vite fait pour les auditeuristes néophytes de ce que sont les ASBL Execo et Modus Vivendi?
Alors je laisserai Samy introduire Execo.
Oui,
très bien.
Moi je peux parler d'Infordrog et de Modus Vivendi. Donc,
parfait.
Bon, tout d'abord, Infordrog, c'est une ligne téléphonique. C'est principalement un service donc, pour toute la francophonie belge. Donc on répond à des questions de toutes sortes, que ce soit l'entourage ou les professionnels ou bien sûr les usagers. Il y a aussi un service de consultation, un service de prévention. Et donc c'est des ASBL qui sont subventionnés par la COCOF et la communauté française. Et donc voilà, c'est principalement de la promotion de la santé, y compris pour Modus Vivendi, qui eux sont plus spécialisés dans la réduction des risques. Ils sont actifs déjà depuis l'époque du sida, mais aussi actifs au niveau festif. Donc je collabore avec eux aussi depuis, depuis la fin des années 90, notamment sur des sites de festivals où il y a beaucoup de consommation, comme par exemple le festival de Dour à l'époque où il n'y avait encore que 1000 ou 2000 personnes. Donc voilà, il y avait énormément de travail au niveau promotion de la santé à ce moment-là, y compris pour un public qui venait de France mais qui n'était pas à l'intérieur du festival mais qui était à l'extérieur, qui était plus un public injecteur. Donc voilà, pour la faire courte. Merci. Je laisse Samy introduire Execo.
Salut à tous. Alors moi c'est Samy, je suis chargé de projet à Execo. Et ma spécialité, en fait, c'est de mettre en place des projets de prévention liés au chemsex à Execo. Donc, je fais aussi l'accompagnement communautaire du counseling. Juste avant, en fait, j'étais étudiant et la seule expérience que j'avais, c'était ma conso perso. Et j'ai toujours baigné dans le milieu associatif. Donc, la réduction des risques, c'était pas quelque chose qui n'était pas du tout inconnu pour moi. Et donc, quand je suis arrivé à Execo, j'ai mis en place un site internet qui s'appelle chemsex.be, ce qui m'a permis, entre autres, de pas mal me former sur le sujet et de pouvoir, en fait, identifier l'ASBL sur ces pratiques-là. Parce qu'avant Execo, c'est une ASBL de santé communautaire pour les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes. Donc, on fait notre action phare, c'est le dépistage. Et pendant longtemps, Execo a été une association uniquement de réduction des risques au niveau de la sexualité. Et puis au fur et à mesure, en fait, la question du chemsex a commencé à prendre de l'ampleur, en fait, dans la communauté. Donc la SBL n'a pas eu d'autre choix que de bosser sur ces questions-là. Et c'est à ce moment-là où moi j'ai été embauché il y a 3 ans à Execo. Et voilà. Et puis depuis, en fait, on a un site internet, chemsex.be, qui parle de sexe et de drogue sans jugement. On a des groupes de parole. Il y a Maurizio qui fait des consultations communautaires au sein de nos locaux. Et puis après, on distribue aussi du matériel de réduction des risques, donc en main propre. Et on en envoie aussi par la poste, parce qu'on agit à Bruxelles. Nos bureaux sont à Bruxelles, mais on a plusieurs actions en Wallonie et le fait d'envoyer par la poste, ça permet de donner accès à des personnes qui sont assez reclus dans la campagne et qui n'ont pas forcément accès à des kits d'injection, à des roules tapailles. Donc ils en commandent et on leur envoie gratuitement chez eux. Et voilà. Et puis on collabore vachement avec Modus aussi. Et par exemple, tous les 3e mercredi soir du mois, à la Rainbow House, on fait du testing de drogue et on distribue du matériel aux usagers qui souhaitent en avoir. Voilà. Bah, c'était ça, voilà.
Merci, merci. Samy, aussi, ben, on a un petit peu évoqué ce que c'est, allez, le chemsex, mais il y a une définition qui existe, qui pourrait peut-être, pour vraiment tout le monde puisse comprendre exactement ce que ça recouvre.
Ouais. Ben, le chemsex, en fait, c'est consommer des drogues dans le but d'avoir des rapports sexuels. Le chemsex, ça va pas être quelque. Enfin, par exemple, si je pars en soirée, que je danse et que je prends un cachet d'extra et qu'après je rentre avec un mec, c'est pas réellement du chemsex. Vraiment, le chemsex, c'est prendre des drogues dans le but d'avoir une sexualité. C'est une pratique qui est très communautaire dans le milieu des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, même si j'imagine que dans les autres orientations sexuelles, ça se fait. Mais en fait, avec les HSH, c'est les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, on a un vocabulaire très précis et des pratiques très précises. Et donc, d'où l'intérêt, en fait, que le communautaire s'empare de ces questions-là.
D'accord. C'est très clair, merci. Quand on s'est rencontrés, Maurizio, Samy et moi, pour préparer ce petit interview, on voulait peut-être aborder certaines pistes de discussion. Et en tout cas, par exemple, moi, ce qui m'avait frappé, c'est quand vous évoquiez le tabou, ça on le sait, qui existe encore, voire la non-connaissance du phénomène, peut-être chez les médecins notamment, ou ça a été le cas en tout cas, peut-être c'est mieux maintenant, mais je pense que tu peux peut-être nous dire un mot là-dessus.
Oui.
Maurizio.
Voilà, c'était aussi une des raisons pour lesquelles il était utile de ramener la consultation au sein d'une ASBL qui avait un pignon sur rue et une visibilité LGBT bien claire. Parce qu'il y a malheureusement une mauvaise expérience, les usagers ont une mauvaise expérience de leur. De leur consultation, hein, que ce soit avec des médecins ou avec des psys, lorsqu'ils évoquent leur pratique, si on est confronté à un professionnel en fait, qui n'est pas du tout au courant que ça existe, hein, il faut savoir que le chemsex peut amener les gens à avoir des comportements vraiment extrêmes et bien sûr aussi prendre des risques. Et donc il y a des pratiques aussi qui sont beaucoup plus difficiles à évoquer en consultation, comme par exemple la pratique du fist. Et donc on s'est rendu compte que la plupart des usagers, lorsqu'ils se retrouvaient face à un médecin et qu'ils arrivaient aux urgences avec l'intestin perforé parce qu'ils avaient donné le coup de trop, effectivement la méthamphétamine, peut être très anesthésiante et donc ce genre d'accident arrive et donc voilà, la situation est évidemment médicalement grave et donc elle doit être accueillie comme une situation médicalement grave, sans jugement. Et donc c'est là où les grimaces et où lorsque le récit arrive, lorsque la personne dit j'ai fait fister et j'ai pris de la meth. Et donc, c'est déjà une situation très lourde au niveau clinique. Et bien entendu, lorsque le professionnel de la santé n'est pas briefé sur la question et qu'il accueille ça avec une espèce de grimace et de montrer son dégoût, parce qu'il ne sait pas faire autrement, parce que c'est choquant pour lui, c'est un problème pour le suivi, c'est un problème pour après. Et donc, ce sont des expériences qui sont très négatives. Et c'est là où il a été urgent de mettre en place un suivi avec des professionnels qui étaient formés sur la question. Et c'est pour ça que le site chemsex.be a été mis en place notamment.
Oui, effectivement, le site est très bien fait. Il explique beaucoup de choses. Donc, je recommande pour ceux qui ont des oui. Envie d'information.
Il est fait autant pour les consommateurs que pour les professionnels de santé et du social. Et ce que tu disais, Maurizio, c'est vrai. Et puis c'est à plus petite échelle, quoi. Aussi, quelqu'un veut parler à son psy ou sa psy de sa conso chemsex ou à son médecin généraliste, on touche au sujet les deux sujets les plus tabous de la société, qui sont la question de la drogue, la consommation de drogue, la question de la sexualité, et la sexualité qui n'est pas hétéro, quoi. et puis de pratiques en fait qui sont pas normées. Et donc ben c'est ben, la question du jugement, le jugement de la part des professionnels est super présent. Et puis les professionnels de santé ne savent pas parler sexualité en général déjà. Alors que s'il s'agit de pratiques chemsex, ils sont complètement perdus. J'ai déjà discuté plusieurs fois avec des équipes de professionnels et c'était oui, parce qu'il y avait vraiment aucune connaissance sur le sujet. Donc il y a clairement une inégalité d'accès à la santé pour ces publics-là.
D'où l'importance de ce que vous faites en collaboration. Ok. Bien.
Bah, en fait, c'est pour ça que Mauricio est venu à Execo en fait faire des consultations. Parce qu'il y a un moment où, en fait, à partir du moment où on a créé le site internet chemsex.be, il y a vraiment eu en fait une reconnaissance de l'ASBL très vite en fait par les consommateurs chemsex. Ils sont venus à Execo et en fait on a un classeur de quelques psychologues par exemple et très vite en fait ces psys étaient full quoi et donc on s'est dit il y a un problème on a mis en place Mauricio est venu faire des consultations un jour et demi par semaine dans les locaux d'Execo. Ça a de suite marché. Aujourd'hui, on est à 16 patients suivis à Execo.
Oui, toutes les plages sont prises, effectivement. La période Covid aussi a fort saturé tous les services de consultation. Pendant toute la période de lockdown, nous en fait on s'est quasiment jamais arrêté. On a fait beaucoup de visioconférences au tout début, mais dès avril, je me souviens, on revoyait les gens en consultation parce qu'il y avait vraiment une réelle demande. Là maintenant, il y a encore évidemment des demandes qui arrivent et on se rend compte que il va falloir former, former des nouveaux professionnels parce que évidemment on ne va pas s'en sortir avec un temps plein psy. Et encore, je ne travaille pas de temps plein avec Execo, je suis mi-temps et là c'est full déjà depuis. Alors il faut savoir que cette consultation chemsex, elle a commencé à Infordrog déjà en 2013. Donc c'est à ce moment-là que les premiers patients qui consommaient des substances pour avoir des relations sexuelles plus intenses, ça a commencé à ce moment-là généralement. Bon, il faut savoir que Infordrog est situé dans le quartier européen et je me suis retrouvé avec essentiellement des eurocrates, enfin des gens qui voyagent énormément, puisqu'à ce moment-là il n'y avait pas encore de méthamphétamine en Belgique et donc ces gens travaillaient dans d'autres pays où il y avait déjà une consommation de cristal meth.
Ah oui.
Comme appelé Tina aussi. Ouais. Hein, pour,
comme en Grande-Bretagne, j'imagine. C'était
oui.
Avant.
Disons que ceux qui venaient de Grande-Bretagne, effectivement, sont d'abord arrivés avec la méphédrone, donc la 4-MMC.
Oui.
Il faut savoir que maintenant, la 4-MMC existe encore, mais elle a beaucoup moins de succès, elle a été dépassée par la 3-MMC qui est un peu la méthamphétamine du pauvre.
Qu'elle est plus accessible au niveau du prix.
Oui, voilà. Maintenant, ça change très 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 fort. Les prix ont varié. En 2013, je me souviens, si on voulait se procurer un gramme de cristal meth, ça coûtait presque 300 euros. Ouais. Et puis les prix... Les prix ont évidemment chuté très très fort. Il y avait un peu de demande et presque pas du tout d'offres. Donc c'était que les personnes qui revenaient d'autres capitales où là il y avait déjà un trafic et où déjà ils avaient une consommation assez régulière que pour voyager en tout cas, pour ne pas pouvoir s'en passer pendant les voyages.
Ah ok. Justement, oui. Qu'est-ce que je voulais ? Je voulais dire un autre... Ouh, Samy, toi, tu avais un mot à dire ?
Non, c'est pas...
Ah, alors, d'accord. je me disais, pourquoi ce... Allez, on note peut-être un phénomène, d'après ce qu'on avait discuté ensemble, d'explosion un petit peu de ce phénomène. Il se fait de plus en plus problématique. Est-ce qu'il y a quoi comme...
Bah, en fait,
comment on le voit pourquoi est-ce qu'on
il y a une explosion. Ça arrive, quoi. Il y a une popularisation de cette pratique qui a toujours existé, mais en fait, dès l'arrivée des applications comme Grindr, Planète Roméo, cette pratique est devenue beaucoup plus accessible. Et bon, en soi, la pratique, elle n'est pas problématique. Hein, mais en fait,
je ne savais pas quel mot utiliser. Justement. Ouais,
non, mais tu as raison. Aujourd'hui, en fait, elle est problématique pour beaucoup de gens. Il y a plusieurs raisons, notamment que les gens ne sont pas éduqués à la consommation de drogue. Et donc il y a des mecs en fait, ils se retrouvent à 60 ans où ils ont jamais consommé de drogue de leur vie et ils se retrouvent en fait chez un mec et il y en a pour beaucoup leur première expérience ça va être l'injection de crystal meth et à partir de là en fait il y a aucune indication, pas d'expérience derrière et pas de possibilité d'en parler facilement autour, donc très vite en fait ça peut être problématique et après, il y a d'autres raisons pour lesquelles en fait, il y a des personnes qui sont dans des pratiques à risque sur cette pratique du chemsex.
Je viens de me rendre compte que j'ai pas mis dans le script la troisième chanson de Mans.
C'est vrai ? Et c'est bientôt ?
C'est maintenant.
Ah, c'est maintenant.
Du coup, la prochaine, c'est Stain Sex Junkie.
Merveilleux, c'est exactement voilà. Ça.
C'est parti.
Rebonsoir, je n'entends rien dans mon casque, mais c'est pas grave, vous êtes toujours sur Radio Panique et vous écoutez toujours Talk from Homographia. On a écouté très très vite Sex Junkie de Steen et on va reprendre les questions sur le chemsex qui est notre thème de ce soir pendant l'émission. Alors je laisse la parole à Princessine.
Oui, donc on a évoqué deux trois discussions, mais pour finir sur le thème et qui est bon, très large et il y a encore beaucoup de choses à dire, beaucoup. Mais il y a des sources d'informations pour ça aussi et des permanences, etc. Et du coup, pour une note finale qui apporterait un peu plus d'optimisme pour quand on regarde ce phénomène, je voulais savoir ce que vous voyez ou ce que toi tu voyais. On avait discuté de ça, Samy. Tu voulais peut-être dire un truc.
Ce qui est plutôt positif en fait aujourd'hui, c'est que en fait déjà la communauté s'empare du sujet, les initiatives communautaires se mettent en place, les paroles se libèrent, les gens ont des espaces pour pouvoir en parler, et puis en plus les médias traitent plus ou moins bien le sujet, mais en tout cas c'est un sujet dont on parle. Et qui est mise en lumière, et les professionnels de santé, la société en fait prend connaissance du sujet et commence à se former en fait à apprendre à parler sexualité et aussi à décentraliser, bon on en est très loin, mais décentraliser la sexualité de l'hétérosexualité quoi.
Ouais. C'est important. On en a tous besoin. Merci beaucoup. Donc la suite, Baxter, c'est quoi la suite? Ça va être une plongée, oui.
C'est un peu
nouveau chez nous.
C'est la fin de cette émission, mais avant de nous quitter et avant de vous quitter, Lazare Lazarus va nous lire un extrait du texte Quand la ville bande, un texte qu'il a écrit sur une nuit passée au jardin des Tuileries, nuit de sexe et de drogue. On vous remercie tous ici présents avec nous, mais aussi vous qui nous écoutez. Le prochain et dernier épisode de Talk from Homographia de cette saison, c'est le 14 juillet pour un rendez-vous militant et festif.
Oui.
Lazare, c'est à toi.
Quand la ville bande. Janice portait son poids d'un kilo attaché aux couilles, qu'on voyait vivement dépasser et bouger à travers son jogging quand il marchait. Sur le parvis minéral du Louvre, notre route sonnait comme une procession grave et silencieuse. On arrive au jardin et s'engouffre progressivement dans un labyrinthe de haies taillées en rectangle, bordé par des rangées de colonnes blanches et des façades aux fenêtres closes et impénétrables. Les massifs de tilleuls sont ordonnés en taupières et forment un paysage géométrique, contraignant les corps dans une perspective froide et sans émotion. Pourtant, c'est bien là qu'on défile pour décharger face à la pyramide de verre, qu'on sème et s'encule au bord de la nuit pour ouvrir d'autres mondes à venir. C'est un véritable écosystème d'if et de boue, de salive et de foutre, se déployant en miroir sur deux parties et relié par l'arc de triomphe du carrousel. Par endroits, des escaliers mènent à des sous-sols, des alcôves souterraines qui, de loin, apparaissent comme des trous noirs opaques, des tunnels vers des enfers incertains. Dans l'obscurité, on doit s'approcher des mecs pour les distinguer. On s'engage à l'aveugle et on se fiance. Pour se lire à la nuit, on boit le jet dans une bouteille d'orangina et avale les paras de Troie avant de s'aventurer sous terre pour entrer dans la noce. J'observe Janice se faire niquer barbac par une communion de bourgeoises et de clochards, reliés par la même passion du foutre, venue déverser ce soir un torrent de tristesse dans le cul consolant de Janice, cambré sur le mur comme une mater dolorosa. Tandis que je regardais la scène avec attention, un gars déboule brusquement de l'escalier pour me foutre des baffes et me cracher au visage. Ses tentatives de me dominer, bien que maladroites, me fout le barreau direct. Il gémit en boucle des « ah » et des « ah » idiots, en frottant frénétiquement son entrejambe gonflée contre ma joue. Sa bite, bête et baveuse, longue et pâle, m'excite. Je la glisse toute crue entre les lèvres, dure comme un os, ronde comme une carpe, et je sens ses beaux yeux stupides me fixer avec l'insolence et la douceur d'un enfant. La ville bande. Les demi-chemins, les coins, les angles, la distribution des sous-sols et leur profondeur se prolongent depuis nos corps ravis. La drogue monte. J'avance les yeux fermés, porté par un sentiment d'étrange familiarité, comme si je connaissais cet endroit depuis toujours. On s'enfonce dans le carrousel du Louvre. Sur les escaliers, Janice sort son matériel pour s'injecter de la Troie, puis s'encorde le corps devant les caméras qui nous surveillent. Il enroule la corde autour de ses couilles et forme un système de nœuds complexes qui coulissent entre son ventre, sa bite et sa nuque. Immobile, capturé dans son propre piège, le corps tendu dans la lumière striée du grillage, les yeux concentrés. Janice est au bord de l'extase devant les quelques spectateurs intrigués. Il propose de m'accorder à mon tour, mais réalisant notre défense, on décide de remettre ça à plus tard. Cette entente tacite nous liait davantage. C'est déjà l'aurore. Le jardin s'éclaire sur un ciel diaphane et flou, encore chargé des promesses de la nuit. Dans la lumière vague, nos corps évanescents pétillent joyeux sur le palais du Louvre, le long des coursives fleurdelysées et des modillons à tête de faune que soutiennent les corniches. Je trique fort dans mon short rouge, prêt à bondir sous les moulures cannées des architraves et les pilastres qui débordent des murs. Pour prendre de la hauteur, j'accède au centre du labyrinthe et grimpe à un tilleul. Les jambes enrobées autour d'une branche, le corps allongé en surplomb, j'observe le haut, les garçons nichés dans les coins qui se draguent, et plus loin, la ville basculer dans le jour. Les premiers travailleurs s'activaient. J'imagine des odeurs de lessive, de café et de foutre de la veille coincées dans leurs habits propres. Un gars s'approche de l'arbre, avec des yeux obscènes et la mine délirante, le survêt chargé de branles. Il lève le bras pour atteindre mon cul et me foutre des doigts tandis qu'il se touche le paquet tendu sur le tilleul. J'aime ce qu'il fait. Je balance mon cul en équilibre pour l'aider. Je regarde sa main brutale et décidée presser le paquet de son froc sale tandis qu'il enfonce ses doigts plus profondément dans mon cul. Je devine dans son slip sa bite serrée, humide et hallucinée au bord de l'orgasme qui goûte à travers son jogging raidi sur le tronc. Je sens ses doigts pleins de ville et de nuit se répandre en moi, couler sous mon corps de tilleul. Il creuse des grottes de fougères et ruisselles comme des fontaines, intarissables. Puis, brusquement, il sort sa bite pour décharger en grognant des jets de foutre sur l'écorce avant de disparaître. Les rayons du soleil traversent les haies et jettent çà et là dans les coins des tiges de lumière chaude pour éblouir le visage des derniers branleurs. Au bout d'une allée, dressé seul au-dessus des taupières, un mec me regarde, immobile. Je descends de l'arbre pour me joindre à son jeu nuptial. Ses yeux humides et joyeux coulent sur mon visage. Il sort de sa poche une petite brosse en bois pour me caresser la barbe. Je voudrais qu'il m'épouse. Je glisse ma main dans son jean et découvre un lourd morceau soyeux et mou, épais et massif, que j'apporte à ma bouche heureuse et fatiguée, éclairée par le soleil jaune qui grossit. Les façades du Louvre, dures et blanches, se détachent du bleu du ciel et déroulent ces grands frontons triangulaires et cintrés au-dessus des travées. Nos cœurs radieux s'accordent et débordent sur la ville estivale. Dans la transparence d'une haie, j'aperçois Janice qui avait disparu depuis la scène du carrousel. Il me jette un sourire complice. Je viens à lui et le défroque pour engouffrer sa bite douce et solaire qui glisse au fond de ma gorge comme un galet chaud. À l'instant même où je m'appliquais à genoux dans mon carré d'if de soleil, un groupe de 8 policiers surgit soudainement de nulle part pour nous encercler. Je mets quelques secondes à réaliser leur présence, encore absorbée par la bite matinale de Janice. Plongé dans le labyrinthe, j'oubliais le monde extérieur, la bienséance, la capitale, les bandes de touristes et de familles à poussettes qui inonderont bientôt les quais et les trottoirs. Les policiers nous demandent ce qu'on fait, à quoi Janice leur répond calmement qu'on se drague entre copains, que c'est notre façon à nous de nous séduire et qu'il n'y a pas de mal à ça. En contrôlant nos identités, ils nous rappellent les règles de la pudeur sur l'espace public, que des enfants pourraient nous voir. Ils nous demandent de vider nos sacs. Ils découvrent alors tout notre attirail de la nuit se répandre sur le sol, un bordel d'aiguilles, de seringues, les flacons de jet, les pochons de Troie et nos cordes blanches pleines de pisse. Ils nous interrogent sur l'usage de ce matériel qu'ils ne semblaient pas connaître. Janice leur explique d'un ton posé qu'on utilise les cordes pour la pratique du bondage et que la Troie et le jet sont des stimulants sexuels fréquemment consommés dans nos milieux. Je me voyais passer la journée au poste. Ils nous ont pourtant laissé partir, comme si, à force de patrouiller tous les matins pour chasser des branleurs et fermer la nuit derrière eux, il finissait par faire partie du jeu.
Merci, merci beaucoup Lazare, Lazarus. C'est comme ça qu'on se quitte. Merci à vous.
Merci à toi.
Merci.
Merci.
Merci pour l'animation.
Merci.
Bisous.
Bisous.
Bisous. Je bande.